Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Has ever reached a point in your life where you say to yourself, this is the best I'm ever going to look, the best I'm ever going to feel, the best I'm ever going to do, and it ain't that great?
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale classique. On va aborder différents genres. On va causer de trois sorties Carlotta Film, trois films signés Wim Wenders, trois films vraiment réalisés à des époques différentes. L'angoisse du gardien de but au moment du penalty, film de 72, L'état des choses, film de 82, At the End of Violence, un film de 97. On parlera aussi de films qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, plus ou moins directement, avec Ceux qui servent en mer, un film de 42 de Noël Coward et David Lean, qui est disponible chez Elephant Film, mais également chez Elephant Film, un téléfilm allemand de 2004 de Joe Bayer qui s'appelle Opération Valkyrie. Et on en discutera parce qu'on pourra aussi d'ailleurs faire la comparaison un peu avec le film de Bryan Singer avec Tom Cruise sur le même sujet. On abordera un polar de Peter Yates qui est sorti chez Rimini Éditions, un film de 73 qui s'appelle Les copains d'Eddie Coyle. On causera également d'un film de Roman Polanski, là, qui est sorti chez Carlotta Film, qui s'appelle Le Locataire, un film de 76, un film mal aimé dans sa filmographie, et qu'on va essayer à notre modeste façon de réhabiliter. Et puis, on fera un grand voyage dans le temps, et on terminera par un film légèrement plus récent, bien que ça peut paraître très loin pour certains, un film de 1991 de Ron Underwood, paru chez Bubble Pop, qui s'appelle La vie, l'amour, les vaches. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer classique du cinéma, nous sommes aujourd'hui accompagnés à distance de Johan Chanoir, dit le chat errant, historien, critique de cinéma, enseignant à Sciences Po, enfin bref, un homme très occupé, ou un chat, je ne sais plus. Miaou à toi, Johan.
Miaou à toute l'équipe.
À mes côtés, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, alors je me méfie un peu parce que pour parler de la vie, l'amour, les vaches, je ne sais pas ce qu'il va en rester des vaches après son passage. Je veux bien sûr parler du loup-garou picard, alias Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Damien, bonjour Jérôme, bonjour Johan et bien évidemment bonjour à toutes.
Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas vous parler des films choisis cette semaine dans l'ordre chronologique de leur réalisation ou de leur sortie en salle. Non, j'ai décidé de nous faire quelques petites thématiques aujourd'hui. J'innove et je commence par on va commencer par Wim Wenders et puis nous attarder un peu sur ce cinéaste allemand dont on a déjà beaucoup parlé dans l'émission. Et là, il y a trois films de lui qui ressortent chez Carlotta. Un film qui est considéré vraiment comme un petit classique de son cinéma, qui est aussi un film qui a longtemps été peu visible, voire invisible, pour d'obscures questions de droits musicaux liés au film. Et ce film qui a un des titres les plus marquants. En fait, à la même époque, il y a deux films qui ont des titres très marquants dans le cinéma allemand, dans cette nouvelle vague allemande. Il y a le film de Werner Herzog, Les Nains aussi ont commencé petit. Et puis il y a L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty de Wim Wenders. Il faut avouer que ces deux titres-là, tout de suite, on a envie de voir les deux films en question. Là. Donc on est en 72, c'est Carlotta Film qui édite le film. Et bon, l'histoire est assez simple en fait. Hein. C'est l'errance d'un gardien de but comme ça qui est avant et après un meurtre. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. On ne sait pas vraiment d'ailleurs s'il y a eu un meurtre. L'intrigue, un peu, ça divague comme ça. On est chez Wenders, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'errance et le meurtre est. Voilà, on ne sait pas trop. Wenders a toujours joué avec les codes du polar hein, durant toute sa carrière. Il a toujours aimé ça sans jamais réellement faire de polar. En tout cas, l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, ce n'est pas la seule fois où il va utiliser le polar ou le cinéma de genre pour raconter tout autre chose et surtout les errances de ses personnages, souvent perdus dans une société elle-même en déshérence. Parabole, là, en tout cas pour ce premier film, l'un de ses premiers films, d'une Allemagne scindée en deux. Le film aussi peut être vu comme la première pierre d'une étude sur la violence et ses conséquences pour les personnages. Et d'ailleurs, c'est aussi un thème qui est au cœur de The End of Violence de 97, qui ressort chez Carlotta aussi, qui est aussi un film en trompe-l'œil, je veux dire, autour du polar, un film où on a une distribution quand même assez incroyable, ça il faut le dire. À Los Angeles, on a Bill Pullman, qui est un producteur hollywoodien assez cynique quand même, et qui doit sa carrière à l'exploitation de la violence, et qui se trouve lui-même confronté à deux tueurs chargés de l'éliminer, qui parviennent à le kidnapper, mais le lendemain, ce sont les corps décapités de ces deux tueurs que l'on retrouve. Voilà. Donc l'inspecteur Doc Block, qui est joué par Lauren Dean, à qui l'enquête est confiée, tâche de reconstituer le puzzle d'un scénario plausible. Mike Max serait parvenu donc à se libérer. Mike Max, c'est le nom du personnage interprété par Bill Pullman, serait parvenu à se libérer et à tuer ses ravisseurs. Depuis son observatoire secret de Griffith Park, Ray Bering, qui est joué par Gabriel Byrne, un ex-scientifique de la NASA, a été par hasard témoin d'une partie des meurtres. Mais ces images sont curieusement floues, presque inexploitables. Il prend alors conscience qu'il est lui-même observé. Dans les seconds rôles aussi, dans les rôles féminins, il y a Andy McDowell, qui est au summum de sa beauté. Il y a Samuel Fuller, je crois que c'est sa dernière apparition devant une caméra. C'est encore une fois une sorte de tribut au grand cinéma américain de la part de Wenders, qui lui fait d'ailleurs du cinéma qui n'a rien à voir avec le cinéma auquel il rend souvent hommage. Et le film aussi peut évoquer aussi le travail de Michael Haneke. Je pense à un film comme Caché, par exemple, qui vient un peu après, je crois. Bon, la musique de Ray Cooder, comme d'hab, super. On sait que depuis Paris, Texas, Ray Cooder, c'est des BO d'enfer. Mais moi, je trouve que ce The End of Violence, c'est un film qui se situe quand même parmi les moins réussis de Wenders, contrairement à L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty dont on parlait juste avant, qui est un film assez fascinant, qui est un film complètement prenant, presque hypnotique. Là, je trouve que le film reste à voir pour ceux qui veulent vraiment connaître toutes les facettes de son auteur. Mais pour moi, c'est un Wenders assez mineur. Je trouve que le film n'arrive pas à s'emparer de son sujet, qui est justement la réflexion sur la violence. Peut-être parce que justement, pour une fois, Wenders fait presque un vrai polar, et du coup, plutôt un thriller, et du coup, il est moins à l'aise. Mais par contre, l'autre film, là, dans les trois qui sont sortis, je le trouve plus réussi, moi. Mais Thomas, tu vas nous en dire plus, parce que c'est toi le plus amateur de Wenders dans la bande. Hein. C'est L'état des choses, qui est un film de 1982.
Oui, quand il fait l'état des choses, en fait, il vient de sortir d'un tournage qui a été plutôt éprouvant pour lui. C'était le tournage de Hamet, un film hommage au roman noir, au film noir, hein, et à Dashiell Hammett. C'était un film qui était produit par Francis Ford Coppola. Hein, et Francis Ford Coppola a beaucoup mis de sa patte dedans hein, quand Wim Wenders lui présente un premier montage. Coppola n'est pas content et lui dit qu'il faut tout retourner. Alors en fait, il ne retourne pas tout, mais il en retourne une bonne partie. même s'il a été dessaisi du projet, hein, Wenders considère qu'il a été dessaisi du projet, tout ce qu'on voit encore à l'image, c'est lui qui l'a fait. Hein. Ce n'est pas Coppola qui a tourné ce qu'il voulait changer. Et donc, l'état des choses, en fait, raconte un peu ça, quelque part. C'est une réaction à cette expérience qu'il a eue avec Francis Ford Coppola. C'est un film qui est à la fois un film sur le cinéma, un film un peu road movie, et puis il y a du film noir dedans. Enfin, on retrouve toujours cet amour de ces différents genres dans l'état des choses. Et pourtant, le film commence vraiment de façon assez différente. On a l'impression de voir un film d'anticipation, un film de science-fiction avec des personnages qui sont tous habillés de combinaisons blanches, qui ont des lunettes de protection, qui ont l'impression... Là, on est dans un... Il y a un filtre jaune, jaunâtre, orange. Hein, donc, on est vraiment dans un autre univers. Hein, on dit c'est un film de science-fiction, c'est très étrange. Ça a l'air d'être d'ailleurs un film de science-fiction genre série B, hein, dans un film bis. Des personnages qui semblent fuir quelque chose, qui sont en quête d'un refuge. On dirait qu'il y a une épidémie dans le coin, il y a des gens qui meurent de façon assez étrange. Et tout d'un coup, il y a un mec qui rentre dans le cadre, qui est habillé comme vous et moi, enfin, comme vous et moi dans les années 80. Hein. Et en fait, c'est un film dans le film, voilà. C'est un film dans le film et c'est un film réalisé par Friedrich Munro. Hein, Friedrich Munro qui peut vous évoquer un autre nom. Hein. Et il apprend là, à l'issue de ces quelques scènes qu'il vient de tourner, il apprend par son chef opérateur, hein, chef opérateur qui est ni plus ni moins que Samuel Fuller, qui est, ils n'ont plus de pellicule, ils n'ont plus de sous. Voilà. Ils sont en train de tourner et là, le film, en fait, le tournage se passe au Portugal. Et donc, Friedrich Munro va essayer de trouver de l'argent, de retrouver le producteur qui apparemment a disparu, pour trouver de l'argent pour finir son film. Voilà. Et c'est un film un peu, comme tu l'as dit, Jérôme, hein, c'est un film. Il y a de l'errance à la caméra pendant un bon moment. Elle erre parmi les différents protagonistes du film. Après le tournage, on les voit évoluer comme ça autour. Il y en a qui s'en vont. On les voit discuter entre eux. C'est très étrange, c'est assez flottant. Et puis finalement, le film, quand le personnage de Friedrich Munro va à Los Angeles, le film prend une autre tournure encore. Là, on rentre dans à la fois une sorte de road movie et de film noir. Donc ce personnage va essayer de retrouver ce producteur. Et là, on voit vraiment que Wim Wenders règle ses comptes avec Francis Ford Coppola, parce que quand Francis Ford Coppola tourne Le Parrain, il est plus ou moins en cheville avec la mafia, hein, parce que la mafia, un film qui parle d'elle, forcément elle s'y intéresse, et donc il y avait quand même des gens de la mafia qui se sont insinués sur le tournage, qui ont fait plus ou moins partie de la production. Enfin, il était en cheville plus ou moins avec la mafia. C'est ce que dit un peu l'état des choses de Wim Wenders, hein, que Francis Ford Coppola était en cheville avec la mafia, et que ce producteur, hein, ce producteur fictif dans l'état des choses, en fait, il s'est mis dans les problèmes en empruntant de l'argent avec on ne sait pas trop qui, etc. Et c'est un film assez pessimiste sur le cinéma, sur l'avenir du cinéma, hein, sur la difficulté que peut avoir des réalisateurs indépendants à faire des films. Et c'est un film qui date de 82 et c'est un film qui est quand même plutôt, je dirais, visionnaire déjà en 82, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce que dit Wim Wenders, c'est que le fric avant tout, quoi, le fric avant l'art, le fric avant le talent, etc. Et c'est, moi, sans rentrer dans le fait que dans des considérations mafieuses, etc., à Hollywood, je ne connais pas comment ça se passe à Hollywood, mais effectivement, maintenant, ce qui prend la place dans les salles de cinéma, c'est beaucoup dans les salles de cinéma, dans les médias, hein, des films dont on parle beaucoup, qui prennent beaucoup de place, qui font des entrées, ce sont surtout des films qui cherchent à faire rentrer de l'argent, des grosses productions comme les Marvel, etc. Donc quelque part, l'état des choses de Wim Wenders, c'est un film visionnaire, un film très étrange qui mélange donc plusieurs genres, hein, la science-fiction au début, le road movie, le drame un peu au milieu avec ces tranches de vie qu'il filme à droite à gauche, hein, côté un petit peu flottant, et pour finir par un film noir assez pessimiste. Hein. Tout ça filmé en noir et blanc par Henri Alcan au meilleur de son talent, donc l'état des choses. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande vivement.
Je rappelle les trois films, hein. L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, L'état des choses et The End of Violence, donc trois films de Wim Wenders qui viennent de sortir chez Carlotta Film.
Écoutez Culture Prod.
On va rester dans l'ambiance, alors un peu polardeuse, enfin, c'est un peu nébuleux des fois chez notre ami Wim Wenders, nébuleux dans le bon sens du terme, hein, tu l'as bien dit toi-même, tellement il brasse beaucoup, beaucoup de choses. Mais on va aller plutôt nous vers un petit maître du polar, hein, qui a eu son heure de gloire, qui n'a pas fait une très grande carrière, d'ailleurs, pourtant, il a fait beaucoup de très bons films, mais qui n'a pas été très prolifique. D'ailleurs, c'est très, très, très bien rappelé dans une superbe... un superbe bonus qui est une discussion entre Jean-Baptiste Auré et Samuel Blumenfeld, discussion qu'ils ont choisi de titrer Les prolétaires du crime, qui cadre complètement en fait avec le film de Peter Yates dont on va parler, hein, Les copains d'Eddie Coyle, The Friends of Eddie Coyle. Film de 73, film avec Robert Mitchum et Peter Boyle. Alors je cite que ces deux-là parce que c'est deux antagonistes parmi les plus importants du film. Film sorti chez Rimini Éditions, néo-noir donc de la première partie des années 70. Alors deux copains, il n'en est guère question. Hein, c'est un monde complètement pourri dans ce film. C'est un monde assez immonde où tout le monde trahit tout le monde. D'ailleurs, c'est un film qui est particulier, c'est un film sur une balance. Sur une balance et qui rencontre une autre balance, hein, puisque c'est Mitchum qui rencontre Peter Boyle. Qui va rencontrer un salopard, hein, qui bosse pour la police en lien avec le trésor public, et qui va lui extorquer des infos en échange de minimiser une peine que Robert Mitchum s'apprête à faire. Robert Mitchum, qui est un gangster vieillissant, qui sait quelque part que sa mort approche et qui décide de collaborer pour essayer quand même de gagner un peu de temps. On ne sait jamais. Et tout cela tourne autour aussi d'un casse, d'une banque. D'ailleurs, une scène très incroyablement efficace. Mes chers amis, je pense qu'on peut dire... que c'est le film de casse le plus sobre et le plus triste qui soit sur la fin d'un acteur, presque la fin d'un genre, d'une certaine idée du cinéma, le film noir. Un film vraiment plein de spleen, particulièrement marquant et qui en plus contraste, parce que moi j'ai longtemps connu de ce film que sa musique de Dave Grohl, qui est excellente, que j'ai en vinyle depuis fort longtemps, et qui a un côté très funky, très années 70 comme ça, et en fin de compte, elle correspond bien au film, hein, quand elle est bien utilisée par Peter Yates. Peter Yates, on rappelle, réalisateur de Bullitt, entre autres, évidemment, mais pas que de Bullitt, mais bon, je pense que Thomas va nous en dire plus. Et ce film, c'est le polar le plus anti-spectaculaire, je crois, qui existe, quoi.
Peter Yates, c'est quand même un cinéaste anglais au départ. Il a réalisé trois films en Angleterre, quelques épisodes du sein de Destination Danger. Et surtout en Angleterre, il est surtout connu pour ce film qui est sorti dans la collection de Jean-Baptiste Torré, 3 milliards d'un coup, Robbery, qui est un film de casse. Et qui est un film de casse à la Peter Yates, c'est-à-dire pas du tout spectaculaire.
très mise en scène très minutieuse, comme les casses, les braquages de banque montrés dans The Friends of Eddie Coyle. C'est montré de façon très minutieuse, vraiment pas du tout spectaculaire. Et pour moi, ce film de Peter Yates, film noir, est-ce que c'est vraiment un film noir? Je m'interroge parce que ça ne reprend pas vraiment les codes du film noir. C'est entre le film de braquage.
Il y a Mitchum, c'est le film noir quand même.
Oui, mais justement, il est à contre-emploi. Comme tu l'as dit, c'est un gangster vieillissant qui vit de petits boulots. C'est que des pauvres types en fait dans le film. C'est pas du tout une vision grandiloquente, spectaculaire du banditisme. On n'est pas du tout dans le parrain de Coppola. Ils se rencontrent dans des parkings, dans des bars miteux. La photo, elle est... pour moi, je trouve que on est vraiment, vu que Peter Yates est un cinéaste anglais, on est vraiment dans une logique de réalisme anglais. C'est presque un film social anglais, de réalisme social anglais. Et c'est vrai qu'à regarder comme ça, il se passe rien. C'est des mecs qui se rencontrent, alors ils achètent des armes. Tu peux même avoir quelle arme, etc. Il y a deux braquages. Hein. Il y en a un qui se termine mal d'ailleurs. Mais c'est pas un film où il y a beaucoup d'action et pourtant il se passe plein de choses. C'est que des manipulations. C'est un film sur la manipulation. C'est assez horrible. Hein. C'est les mecs qui, à part Robert Mitchum, lui, il essaye de sauver sa peau. Puis surtout, il veut subvenir aux besoins de sa famille. Quoi. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est pas vraiment pour lui en fait. Mais c'est que des mecs qui font des trucs en sous-main. Ils se font des crasses, etc. Et Peter Boyle, qui a quand même une drôle de gueule. Hein. C'est quand même un acteur qui avait une tête vraiment particulière. Peter Boyle, il est quand même bien utilisé dans ce rôle. Parce que c'est quand même un film qui est quand même assez pessimiste. Et c'est vrai, c'est un film très triste. Mais c'est pas forcément très révélateur de toute la carrière de Peter Yates, parce qu'il a fait des comédies aussi. Hein. Il a fait des films policiers aussi, beaucoup plus entraînants, dont un avec Robert Redford. Les Quatre Malfrats, je crois.
Adapté de Westlake. Sous son pseudo, je ne sais plus le pseudo, mais...
Richard Stark,
voilà, adapté de Westlake. Ouais, c'est un très bon film, d'ailleurs. Je crois qu'il le fait juste avant The Friends of Eddie Coyle. C'est un film plutôt cool, d'ailleurs. On n'imagine pas qu'il va faire derrière The Friends of Eddie Coyle. On imagine qu'il va s'inscrire dans la continuité de celui-là. Et puis après, moi, je pense aussi que le fait de choisir de filmer Boston... Oh, Boston, c'est pas une ville qui rigole. Quand on voit aussi le film de Ben Affleck qui se passe à Boston, c'est sa ville, hein. The Town de Ben Affleck, avec un film qui est pas sans évoquer celui-là. Et tu vois, pourtant tu dis c'est le réalisme anglais, mais en même temps, les Américains, les Bostoniens s'y retrouvent dans ce film. Donc, je pense qu'on devait pas rigoler des masses à Boston déjà s'ils s'y retrouvent dans le film. Mais bon, c'est noir quand même, Damien.
Vous l'avez bien expliqué tous les deux. C'est un monde un peu de requins et de gens qui sont petits, même s'ils font des choses qui sont incroyables. C'est-à-dire que les braquages, ils sont anti-spectaculaires, mais ils sont très minutieux. Chaque chose doit être faite d'une certaine manière. Chaque personne a sa place, ce qui fait que quand on assiste au premier, déjà c'est à moitié kidnapping, à moitié braquage, ce qui est assez impressionnant. Ils vont jusqu'au bout et vraiment, on s'attend à avoir des moments qui sont importants, même lorsque le deuxième braquage rate. Enfin, il réussit, mais il y a un imprévu qui se passe. On s'attend à ce que ça lance un truc. Et non, pas du tout. En fait, c'est vraiment un film qui est très particulier, avec une image froide. Je crois que le mot de spleen, Jérôme, tu l'as bien choisi parce qu'on s'y retrouve parfaitement avec ça. C'est aussi l'adaptation d'un roman que j'ai pas lu, mais il faudrait voir ce que ça donne par rapport à ça. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on parle de Robert Mitchum et de Peter Boyle. Mais même si ce sont deux personnages qui ressortent, ce sont des personnages qui, même à l'intérieur du film en soi, sont peu présent, parce que quand Robert Mitchum est à l'écran, il vole l'écran parce que c'est lui, mais son rôle est très particulier. Il est un peu bizarrement dans le coin du cadre, un peu reculé par rapport à tout ce qui se passe, justement pour mettre en avant que ce sont des bandits qui font quand même des braquages de banque, mais qui pourtant n'en ont pas toute la gloire derrière.
Ça s'appelle Les Copains d'Eddie Coyle, c'est signé Peter Yates et on vous le recommande vivement. C'est disponible chez Rimini Éditions. We'll be right back.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial classique. Enchaîner avec un film tout aussi joyeux qui s'appelle Le Locataire, qui est un film de 1976 disponible chez Carlotta Film. Enfin, ce film de Roman Polanski, enfin, disponible sur un support de qualité avec une très belle copie et avec plein de bonus super intéressants. Enfin, je vais y revenir. À l'époque, en 76, on est juste après le succès de Chinatown. Roman Polanski s'en vient en France adapter un autre immigré d'origine polonaise, Roland Topor. Alors, le passionnant auteur derrière Téléchat, eh oui, artiste total et dessinateur de génie, écrivain décapant, cofondateur du mouvement Panique, collaborateur au Harakiri de la grande époque, qui travaillera ensuite, entre autres, hein, parce qu'on ne peut pas tout citer, hein, il a aussi réalisé des films, tout ça, mais qui travaillera, entre autres, sur La Planète Sauvage, de René Laloux, c'est pas rien. Signera quelques affiches sublimes aussi, on l'oublie souvent, celle du Tambour, par exemple, de Schlendorf, L'Empire de la Passion, de Nagisa Oshima. En 64, donc Topor signe le kafkaïen et très noir, Le Locataire Chimérique. Un roman qui compte la destinée tragique d'un trentenaire qui emménage dans un petit appartement parisien et subit un véritable enfer de la part de ses voisins. Polanski retrouve dans ce livre nombre de ses thèmes de prédilection, paranoïa, misère affective, solitude et folie caractérisent l'anti-héros de cet ouvrage, peu éloigné par exemple du personnage de Catherine Deneuve dans Répulsion. Polanski, s'il s'accroche 10 ans à ce projet difficile à concrétiser en raison de blocages juridiques, finit par tenir lui-même le rôle du locataire Trelkowski, malingre et timide petit employé d'origine polonaise, qui reprend donc un deux pièces dont la précédente occupante s'est suicidée. Tourné en studio, le film est l'un des tout premiers à utiliser la Luma pour nous donner à voir des plans vertigineux, métaphore d'un esprit tourmenté par le fantôme de Simone Schull. La morte s'invite via un vêtement oublié, voire via même des éléments beaucoup plus organiques qu'elle a laissés dans l'appartement. Film à l'angoisse sourde, oppressant son spectateur jusqu'au grand guignol, des excès flirtant avec l'absurde, à la Topor en fait, servi par un casting dingue, d'Isabelle Adjani à Shelley Winters en passant par Rufus et Claude Pieplu. Dans ce film, où un homme est comme effacé par les fantômes d'un passé qui n'est pas le sien, Polanski interroge la société post-68arde, allant jusqu'à poser la question du genre et de l'orientation sexuelle. Ce chef-d'œuvre absolu a été découvert un soir par votre serviteur sur FR3, une chaîne qui n'existe plus, attiré par un carré blanc dont il ne se remit jamais.
Et il nous a enfin présenté dans l'Hexagone, dans une édition digne de ce nom, par Carlotta Film. La copie est superbe. Les bonus sont fort judicieux. On peut voir et écouter nombre des membres de l'équipe et Polanski lui-même dans un entretien inédit et fort intéressant. Et puis, je ne saurais trop vous conseiller d'écouter Samuel Blumenfeld parler du film. Vous serez ébahi par la pertinence de ses propos. Donc, ce chef-d'œuvre s'appelle Le Locataire. Il est signé Roman Polanski et il est disponible chez Carlotta Film. Moins dépressif, mais bon, tout aussi angoissant. Voilà deux films maintenant. Nous allons parler de deux films sur la Seconde Guerre mondiale. Mon cher Johan, parmi les films là qui sortent chez Elephant Film, il y a un film signé du très grand David Lean, mais aussi de Noël Coward. Tu vas certainement nous en dire plus d'ailleurs sur la genèse du film, parce que Noël Coward, il a un rôle très important dans ce film, qui est un film anglais, qui est un film de 42, qui s'appelle « Ceux qui servent en mer ».
C'est un de ces films britanniques de propagande, ni plus ni moins. Ça, il faut en avoir conscience, il y a tout un cycle. Il y a eu un film sur l'inventeur du Spitfire, à peu près à la même époque, et puis un peu plus précoce, un Q-Planes en 1939 avec, excusez du peu, Laurence Olivier et Ralph Richardson. Alors ce film, tourné en 42, bon, ça raconte l'histoire donc d'un bateau, en fait, d'un bateau, le Tobin, qui part faire une mission. Soi-disant en Méditerranée, parce que bon, pour ceux qui ont servi dans la Royale, on s'aperçoit très très vite que les vagues qui sont filmées, elles n'ont rien de méditerranéenne, elles sont plutôt de l'Atlantique ou de la mer du Nord. Mais ceci ne doit pas faire, ne pas nous faire oublier que c'est un très grand film et qui en fait a une construction narrative absolument insolite. Alors on se demande pour l'époque comment ils ont pu oser proposer une telle structure, parce que ça commence par la construction du bateau, donc c'est aussi le moyen de rendre hommage au personnel des chantiers navals britanniques, leur savoir-faire, etc. Parce que c'est vraiment presque un documentaire sur comment on fait un destroyer, comment on assemble des plaques, des compartiments étanches, etc., comment on le lance à l'eau. Donc ça, après cet aspect documentaire, le navire va vite en mer, mais il va vite, très vite couler. Il est bombardé par des bombardiers allemands pendant la bataille de Crète. En fait, apparemment, la mission, c'est d'empêcher les Allemands de débarquer en Crète. Et très vite, donc, on se retrouve un peu comme Lifeboat, un peu plus tard, d'Alfred Hitchcock, sur un bateau avec des survivants. Ils sont une dizaine à peu près, il y en a qui meurent, parce que les Allemands leur tirent dessus d'en haut. Donc là, bien sûr, on a compris que là, il y a le message et la cruauté des Allemands qui n'hésitent pas à tirer sur les naufragés, ne respectant aucune loi, y compris les lois de la mer. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le film a une structure narrative très singulière, puisqu'il procède par flashback. En fait, dès qu'il arrive quelque chose à un personnage dans ce radeau improvisé, en fait, il y a des flashbacks. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que parfois les flashbacks font aussi référence à un autre personnage que celui qui était le sujet du premier flashback. Donc il y a des flashbacks qui se croisent. Et tout ça, ça forme une sorte de melting pot de mayonnaise qui n'est pas ennuyeux, en fait. On en parle, ça parle beaucoup, c'est vraiment un film très bavard, mais en fait, ça marche plutôt bien. Puis on arrive à la fin, bon, ils sont sauvés par un autre navire britannique, et puis après, ils se dispersent, qu'ils vont rejoindre d'autres équipages pour poursuivre l'effort de guerre contre les nazis. Pardon. Voilà, donc un film très curieux qu'il faut voir. Alors un film aussi très curieux parce que dedans, c'est la première apparition à l'écran de Richard Attenborough. Bon, Richard Attenborough, très grande carrière. Moi, je l'aime bien dans Bradingham avec John Wayne, mais je ne sais pas si Jérôme et Damien partagent mon avis. Moi, je suis un fan de John Wayne inconditionnel, donc voir sa première apparition dans ce film, où d'ailleurs il n'a pas un rôle très 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 formidable, mais je ne veux pas spoiler. Ce qui est aussi intéressant dedans, c'est que bon, il y a dans le casting, en fait c'est un homme le casting, c'est Noël Coward. Noël Coward, il fait tout. Il est l'acteur principal, il est le producteur, il est le réalisateur, il est aussi un peu le compositeur de la bande-son. C'est une grande légende du théâtre britannique, quelqu'un de très 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 connu, il a écrit des tas de pièces, il est très très célèbre aujourd'hui encore. Puis, je crois que c'est son seul film. C'est une réussite, c'est vraiment un très très bon, très très bon film de guerre, au-delà de sa dimension de propagande. Mais ce qui est aussi curieux, c'est une curiosité pour nous, on peut voir le personnage joué par Leslie Howard. Alors, Leslie Howard, il est mort en 1943, très connu à l'époque, il a joué dans Autant n'importe le vent, donc ce qui n'est pas rien. Et en fait, pendant la guerre, donc jusqu'à Ceux qui servent, on est... on ne sait pas ce qu'il fait, il ne participe pas à l'effort de guerre, il va souvent visiter les pays qui sont proches du fascisme et du nazisme, le Portugal, l'Espagne ou d'autres pays. Et en fait, il a une réputation de noceur, de fêtard. Et en fait, les Anglais commencent à le détester. Et en fait, c'est un agent double. C'est-à-dire qu'il vole des plans, il vole des secrets pour les Britanniques. Il va mourir en 1943 de manière absolument sordide. En fait, il va monter dans un avion qu'il devait transporter Churchill. Et comme les Alliés ont décrypter la machine Enigma, ben ils savent que l'avion va être détruit par une bombe, on ne sait pas exactement. Et donc, Churchill, bien sûr, ne prendra pas l'avion, mais lui, on lui demande de prendre l'avion, et il prend l'avion, et l'avion explose une dizaine de minutes, je crois, après le décollage. Donc, c'est un film très incroyable. Dans le casting, il y a aussi Michel Anderson, qui va devenir un grand réalisateur qu'on aime bien ici. Et donc, c'est un film témoin, en fait, témoin d'une époque, parce que c'est la guerre. C'est un film qui prend des stock shots, hein, on le verra aussi, mais c'est un film qui parle beaucoup. Et puis aussi un film qui est vraiment porté par un homme, Noël Coward, et on peut déplorer le fait qu'il n'ait fait qu'un film, parce que c'est vraiment un grand réalisateur, et surtout il joue le rôle d'un acteur absolument incroyable, un officier pas hautain, mais qui aime se faire obéir, mais en même temps proche de ses hommes. La scène du au revoir final, elle est vraiment larmoyante, je suis sûr qu'elle a fait pleurer dans les chaumières britanniques et dans les salles de cinéma. Il y a vraiment toute la tradition britannique qui est derrière. Il y a parfois des petites scènes d'humour dans les flashbacks, etc. Bref, c'est un objet un peu aussi incongru. Film de propagande, film de guerre, film sur ce qu'est la société britannique au début des années 40. C'est vraiment un témoignage extraordinaire. Et il faut le voir, il faut revoir aussi les films qui n'ont pas la même force qui l'accompagnent, hein, comme Kuplings ou celui sur le fondateur, le créateur du Spitfire.
On va s'éloigner du réalisateur de Dupont de la Rivière Kouai, de Laurence d'Arabie. On va aller vers un téléfilm qui est une vraie curiosité, là, qui est sorti par Éléphant de Film. C'est Opération Valkyrie, le complot pour tuer Hitler. C'est un téléfilm de 2004 de Joe Bayer, téléfilm allemand, avec Sebastian Koch, une star allemande, hein, qu'on avait pu voir dans La Vie des Autres, mais qu'on a vu dans plein de blockbusters. On l'a vu entre autres dans un film un peu sous-estimé, qui est fort sympathique, qui s'appelle Die Hard, Belle Journée pour Mourir, de John Moore, par exemple. Le Pont des Espions aussi, de Steven Spielberg, qui est un très très grand film que j'aime beaucoup de Spielberg. Et puis, au rayon curiosité un peu dans cette distribution, il y a Le Fils d'Hardy Kruger, donc Un Taxi pour Tobruk entre autres, Hardy Kruger Junior, et il y a Christopher Buchholz aussi, qui est le fils de Horst Buchholz, star aussi, qui a pu être aperçu par exemple dans Les Sept Mercenaires, le grand classique du western.
Stauffenberg, c'est le nom original du film quand il sort, parce que comme tu as dit, Jérôme, c'est un téléfilm allemand. Il va être renommé Opération Valkyrie parce que c'est le général qui porte toute cette opération. Cette opération, c'est tout simplement un complot allemand visant à assassiner Hitler le 20 juillet 1944. Donc, on approche grandement de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que Sebastian Koch porte formidablement le rôle principal. Il faut dire que le film est porté par ses acteurs parce qu'ils sont tous très bons dans ce qu'ils font. C'est un film qui va introduire assez vite sa décision justement de mettre fin au pouvoir de Hitler et qui va aussi multiplier un peu les lieux et les personnages sans jamais nous perdre, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre la motivation de chacun. Il y a notamment une scène qui est très intéressante où il entend du bruit qui vient des toilettes, il ne sait pas trop ce que c'est, et quand il y va, il voit un des officiers totalement alcoolisé qui explique qu'il ne peut pas continuer à faire ce qu'il fait, et on comprend que lui, son rôle, c'est de gérer un peu tout ce qui se passe dans les camps, et il trouve que ce qu'ils font, c'est totalement déshumanisant, donc il va vouloir se retourner un peu contre ça et participer à ce complot. C'est une décision qui va être prise très vite. Très vite, ils vont mettre en place l'attentat dans le film. Alors, on voit le temps quand même qui s'écoule, mais tout arrive assez vite. Et ce qui est bien, c'est que c'est un film qui arrive à gérer sa tension parfaitement. C'est-à-dire le moment où ils prennent la décision, le moment où ils essayent de se réunir sans se faire prendre parce qu'ils savent qu'ils vont faire un coup d'État et que faire un coup d'État contre le régime nazi, c'est mal vu par les nazis, bizarrement. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, c'est qu'on va arriver jusqu'au moment où il va y avoir justement l'attentat. On va voir son point de vue de lui, qu'est-ce qu'il voit de l'attentat, ce qui lui fait justifier que pour lui, il a réussi le coup. Comment est-ce qu'ils vont réussir à prendre le pouvoir? On voit en fait toutes les petites mécaniques qui sont apportées par les acteurs, on voit comment ils arrivent à prendre le pouvoir d'une certaine façon et aussi comment ce pouvoir s'évite terriblement vite au fur et à mesure. Et je trouve que c'est un film qui est en fait un téléfilm qui arrive à faire parfaitement bien tout ce qu'il essaye de faire, ce qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans le film, on n'en sort pas, même si on en connaît déjà la fin. Le personnage nous intéresse, sa vie nous intéresse, et les personnages qui l'entourent également.
Opération Valkyrie est donc signé Joe Bayer, est disponible donc chez Éléphant de Film. Et c'est un film, mon cher Johan, toi en tant qu'historien, tu as certainement des choses à nous dire sur le sujet, qui vient quelques années avant un film qui va être un carton international, Valkyrie de Bryan Singer, avec Tom Cruise dans le rôle de von Stauffenberg.
Alors en effet, bon voilà, c'est un film de 2008 hein, qui a connu un très grand succès comme tu l'as dit, mais aussi qui a été accompagné d'une polémique, hein, notamment en Allemagne, hein, parce que la personnalité de Tom Cruise pour jouer le colonel Klaus von Stauffenberg dérangeait un peu hein, en raison de son appartenance à la Scientologie. Donc il y a eu toute une atmosphère un peu particulière. Et à ce titre d'ailleurs, alors après, il y a un débat là-dessus, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas eu le droit, des personnes qui disent qu'ils ont le droit, mais ils ont demandé l'autorisation de filmer sur les lieux même de la conjuration et sur le lieu même de l'exécution, c'est-à-dire dans la cour intérieure d'un immeuble qui s'appelle le Bendlerbock, et d'après plusieurs sources, hein, mais pas toutes, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'unanimité, il faudrait vraiment chercher, hein, ils n'ont pas eu le droit de tourner sur les lieux mêmes où le complot s'est déroulé, où l'exécution finale s'est effectuée, en raison justement de l'appartenance de Tom Cruise à la Scientologie. Donc là, il y a quand même quelque chose, quand même une dimension qui n'a pas rendu hommage au film. Alors après, en film, bon, le film en soi, c'est un film d'action, c'est un thriller, hein, c'est un thriller qui prend comme, et ça c'est très hollywoodien, qui prend comme prétexte une histoire. C'est-à-dire qu'on connaît la fin, on sait que Klaus von Stauffenberg va être fusillé, qu'il va être très vite capturé, etc. Mais en fait, jusqu'à la fin, on nous laisse espérer autre chose. Il ne peut pas s'en sortir, hein. Parce que sinon, on sort de la vérité. Alors, on sort de la vérité, justement, on sort de la vérité à plusieurs reprises. Et là, je pense que la scène la plus intéressante, c'est la scène de l'attentat. Et lorsque Bryan Singer, il vient du monde des X-Men, hein, il a fait X-Men 2, etc. Il a fait aussi un Superman, je crois, mais là, je parle sous la couverture de Jérôme et de Damien qui me diront si
oui,
je me trompe ou pas.
Tout à fait. Un chouette Superman.
Voilà, donc un chouette Superman. Et donc, il est obligé de filmer cette scène qui a déjà été filmée plusieurs fois. Hein. Moi, je pense à deux grands films. C'est arrivé le 20 juillet. Je crois que c'est le premier film allemand, enfin ouest-allemand en 1955 de Pabst, hein, qui raconte le complot du 20 juillet 1944. Et puis, un film que j'adore, qui apparemment n'a strictement rien à voir avec l'assassinat, enfin la tentative d'assassinat et l'exécution d'Adolf Hitler, c'est La Nuit des Généraux d'Anatole Litvak, hein, en 1967 avec Peter O'Toole, Philippe Noiret. C'est l'histoire d'un général de la SS qui est un tueur en série. Alors, il faut revoir ce film.
C'est un film extraordinaire. C'est un film extraordinaire. Très méconnu, extraordinaire. Je suis d'accord. Oui. Un thriller incroyable.
Incroyable. Et dans ce film, il y a la scène de l'exécution, enfin la scène de l'attentat, pardon, décidément, la scène de l'attentat contre Adolf Hitler le 20 juillet 1944, qui va jouer un rôle narratif d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elle est filmée. Et donc, si on regarde ces deux films, et si on regarde le film Opération Valkyrie avec Tom Cruise, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui changent. Alors, il y a deux choses qui changent. Hein. Bon, le bunker hein, qui doit servir de lieu n'est pas utilisé, donc c'est une maison en bois, enfin l'édifice en bois, donc l'effet de souple va sortir parce qu'il n'y aura pas de contenant suffisamment puissant pour absorber l'effet de souffle et donc tuer toutes les personnes qui s'y trouvent. Donc voilà, ça c'est représenté. Mais à un moment donné, c'est ce qu'il se passe après. Alors bien sûr, à un moment donné, Stauffenberg sort, ça s'est avéré, il doit sortir pour prétendument recevoir un coup de téléphone important de Berlin. Il sort et en fait, il sort de la maison et puis il attend que la bombe explose. Mais dans le film avec Tom Cruise, il sort sans casquette déjà. Donc déjà là, c'est presque impossible parce que tout le monde aurait vu qu'il était sorti sans casquette et c'est pas normal, surtout dans la tanière du loup, dans le repère d'Adolf Hitler, de voir sortir un officier après en plus une explosion sans casquette, les gens seraient posé des questions, même s'il y avait bon toute une frénésie, etc. On peut s'en douter. Et puis il ne prévient pas tout de suite l'attentat, il laisse cette mission à quelqu'un d'autre, à un conjuré qui est apparemment le directeur des communications dont la tanière du loup,
Et ce qui explique après, en fait, c'est, vous voyez, c'est là ce que je disais, comme un, c'est un prétexte, parce qu'en fait, il pense que tout le monde est au courant de l'attentat. Il atterrit à Tempelhof à Berlin, parce que c'est l'aéroport de Tempelhof, et puis il s'aperçoit qu'il n'y a rien, parce qu'en fait, ils n'ont pas été prévenus. Et de là, en fait, arrive la chronique de la mort annoncée de Stauffenberg-Kruis, parce que, ben voilà, il faut qu'il meure, parce que l'histoire telle qu'elle incite qu'il meure. Donc il y a quand même des petites licences qui sont faites dans ce film. Ça reste important pour la mémoire, hein, pour la mémoire allemande et européenne sur ce que fait cet homme. Mais vous voyez, il y a aussi un autre élément, et là c'est fondamental, on les présente un peu comme des grands démocrates, tous ces gens-là. Le général von Treschko, etc., le général Ulbricht, etc., Stauffenberg, mais ce ne sont pas des démocrates. Eux, leur seul intérêt, c'est de tuer Hitler pour faire la paix avec les alliés occidentaux et continuer la guerre contre l'Union soviétique. Alors, peut-être que Stauffenberg, c'est vrai, il a eu des prises de position à un moment donné à l'Est, dans sa carrière qui diffère un peu, puis dès 1942, de toute façon, il commence à s'éloigner un peu du nazisme. Mais il ne faut pas en faire des gens qui veulent établir la République, en fait. Hein. C'est des gens qui sont des conservateurs, pour le terme le moins fort, et qui aspirent à poursuivre la guerre. Donc en fait, on les présente comme des héros, des résistants, ça c'est le côté un peu américain hollywoodien, ce sont des bons face à des méchants, mais la réalité historique est beaucoup plus complexe.
Merci Johan pour cet éclairage donc sur Opération Valkyrie. Alors on rappelle qu'Opération Valkyrie, non pas le film de Bryan Singer avec Tom Cruise, mais le film de Joe Bayer, le téléfilm de Joe Bayer de 2004 avec Sebastian Koch, vient de sortir chez Elephant Film et on vous le recommande vivement pour pouvoir avoir un point de vue allemand sur un personnage, le colonel von Stauffenberg, qui a été un peu revu et corrigé par nos amis américains. Vous écoutez Culture Prune. On va se quitter sur une note plus drôle, mon cher Damien, avec La vie, l'amour, les vaches de Ron Underwood. Ron Underwood, quand même, l'homme qui a fait Mon ami Joe en 98, le remake du Chaudsac et Cooper, mais qui surtout a fait Tremors, une excellente série B de monstres, film de monstres, en 90. Et là, en 91, il fait La vie, l'amour, les vaches, qui ressort chez Bubble Pop, avec Billy Crystal, Bruno Kirby, Daniel Stern, Jack Palance. Eh oui, Jack Palance, super personnage dans le film. Ça parle de quoi ce film ? C'est simple, c'est l'histoire de trois quarantenaires qui ont tous des petits problèmes de quarantenaire dans la vie, quoi, et puis qui décident d'aller tenter l'expérience d'un tourisme particulier qui existe toujours aujourd'hui, hein, qui a été revigoré par des séries à succès comme Yellowstone, tout ça. Du tourisme, autour de la figure du cow-boy, où donc on peut aller aller transporter des troupeaux, aller dormir à la Belle Étoile, avec des vrais cow-boys qui vous disent comment il faut faire, comment il faut manier le lasso. Mon cher Damien, est-ce que les vaches te font confiance, Damien ?
Alors, le film s'ouvre justement sur nos trois héros qui sont en Espagne, qui se font poursuivre par des taureaux, très proches des vaches. C'est une scène qui est importante, car elle va introduire à partir de là, juste derrière, le fait que Mitch, le personnage principal, il fait un peu une crise sur son âge. Et c'est une comédie qui va parler justement de ça, de la crise sur son âge. Alors, Mitch, c'est un peu... c'est notre héros, il est new-yorkais, il bosse à la radio. Son travail, c'est de vendre l'espace pub, en fait, des radios. Et c'est un vieux con. Je dirais même que tous ses amis, c'est un peu des vieux cons. En fait, ils ont tous le même problème, c'est qu'ils sont bloqués dans la routine de leur vie. Notre héros, il a aucune motivation. Ses enfants le détestent parce qu'il est monotone. Son ami Phil est en couple avec une femme qu'il déteste. Il la déteste tellement que dès qu'elle est à côté de lui, lui, il fait semblant de dormir pour éviter de lui parler. Et il la déteste tellement qu'il va même la tromper avec une autre femme. On a Ed qui, lui, est en couple avec une femme qui est enceinte et ne veut pas être papa. Et en fait, ces trois personnages ont exactement le même problème. C'est-à-dire que, pour moi, ce sont des vieux cons. Pourquoi ? Parce qu'il est facile de régler leurs problèmes. Si on prend Phil, il pourrait quitter sa femme et avoir une autre vie. Mais non, il préfère se plaindre. Mitch, le problème, c'est qu'il s'ennuie. Il pourrait faire autre chose de sa vie. Mais non, il préfère se plaindre. Ed, il pourrait parler avec sa femme, lui dire qu'il ne veut pas s'enfant. Mais non, il décide de se plaindre. Et quand le film commence, disons qu'avoir comme personnages principaux des vieux cons, bah moi, ça ne me faisait pas du tout plaisir. Et là vient ce truc de... Ils sont bloqués dans leur vie monotone, alors que le film s'ouvre avec eux en Espagne, qui se font poursuivre par des taureaux, mais leur vie est monotone. Ils décident, comme l'a dit Jérôme, de partir en transhumance, d'imiter les Cowboy, et à ce moment-là, le film devient incroyable. Il devient incroyable parce qu'en fait, il met en avant quelque chose qu'on n'a pas forcément au début, c'est que c'est une comédie d'aventure introspectif, et il réussit à avoir ses moments sentimentaux, à avoir ses moments drôles, et à avoir ses moments sérieux. Tout ça, à mes yeux, ça débute justement avec l'arrivée de Jacques Palance, qui joue ce véritable cowboy, un vrai, véritable homme présent ici, en effet, de son prénom Curly dans le film, mais dont les rumeurs autour de lui expliquent qu'il peut tuer plusieurs hommes avec son simple couteau juste parce qu'ils l'ont mal parlé. Et on va se retrouver à une scène qui m'a fait mourir de rire à partir de ce moment-là. Je me suis vraiment constamment marré. Hormis au fait qu'on découvre qu'il s'appelle Curly, il décide de prendre le héros Mitch avec lui pour aller récupérer des vaches. Et un moment où Mitch décide de jouer de l'harmonica alors que... Palance est en train de justement tailler son couteau. Et il commence à entendre Mitch jouer et il lui fait « Mec, si tu continues de jouer ce couteau, je vais m'en servir pour t'ouvrir en deux. » Et Mitch, pris d'un courage qui vient de je ne sais où, lui explique qu'il devait partir en vacances, qu'il se retrouve à devoir gérer des vaches, qu'il s'ennuie, qu'il déteste sa vie. Donc soit il joue de l'harmonica et l'autre le subit parce que ça a duré que quelques minutes, soit il a intérêt à le tuer maintenant. Et ce qu'il va faire Jack Palance, c'est qu'il va s'asseoir à côté de lui, il va commencer à chanter alors qu'il joue de l'harmonica. Ce qui nous mènera plus tard à l'arrivée d'un personnage essentiel au cœur de l'histoire qui s'appelle Norman, mais on en reparlera. Mais l'élément qui rend le tout introspectif, c'est qu'il lui dit un truc qui est extrêmement intéressant. Il lui dit, avec cette confrontation un peu vile et citadin, il dit « Le problème des gens de la ville, c'est que vous prenez trop de choses au sérieux alors qu'il suffit d'en trouver qu'une seule chose et de se concentrer que sur ça. » Et à partir de ce moment-là, le film va commencer à enchaîner des moments qui sont très importants et que je trouve essentiels. Par exemple, il y a un moment où on a un personnage féminin qui fait partie de ce groupe qui participe à la transhumance. Groupe très hétéroclite. Bon, on a un peu affaire à des bourgeois, mais ils sont tous intéressants. On a nos trois amis citadins qui ont leur vie un peu monotone. On a ce père et ce fils noirs qui sont dentistes, qui sont médecins, qui sont docteurs très précisément. On a deux cadres un peu de nom, un maigrichant qui, leur spécialité, c'est de vendre les glaces. On a une femme qui devait venir avec quelqu'un qui se retrouve tout seul et qui va un peu jouer la femme indépendante. Et en fait, en les écoutant parler, elle se rend compte que les hommes, entre eux, ils parlent que de sport. Et elle dit, mais c'est bizarre parce que nous, avec nos amis, on parle de sentiments, comment va notre vie ? Et Ed, ou Phil, dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit que quand il était plus jeune, avec son père, le seul moment où ils communiquaient vraiment entre eux, c'est quand ils communiquaient autour du sport. Et à travers ça, en fait, le fait de bien discuter avec ses amis garçons, c'est devenu justement de parler de sport, parce que ça mettait en avant, en fait, la connexion entre eux à travers ça, à travers le lien qu'il avait avec son père. Il y a d'autres choses qui reviennent à un moment où on demande à Ed, c'est quoi le moment le plus important dans sa vie, le plus joyeux et le plus triste. Il explique que quand il était plus jeune, son père trompait sa mère et qu'un jour il a été violent avec, qui s'est interposé en disant moi je vais m'occuper d'elle. Et en fait, le jour où son père est parti, c'est le jour où il est le plus fier de lui, mais qu'il est aussi le plus triste. Et ça, c'est des moments qui sont sentimentalement très lourd, mais qui fonctionne dans le film. Parce que les personnages, ils sont bien travaillés. Très souvent, c'est par caricature, mais ils fonctionnent beaucoup. Et derrière, on a l'humour. L'humour qui est incroyable, avec le personnage de Norman qui doit être protégé absolument. La fin qui est magnifique et qui nous donne...
Je précise, Norman est un veau, parce que depuis tout à l'heure...
On n'a pas besoin de préciser. Norman, il fait partie du groupe d'amis depuis qu'il est arrivé, ok ? Et qui termine par cette phrase que j'aime beaucoup, qui est « Ces vaches nous faisaient confiance, mais pour en connaître la symbolique, faudra voir le film. » Et une dernière chose qui est intéressante, c'est qu'à travers tout ce film sur comédie d'aventure, buddy movie, un peu coming on edge, mais pas pour enfant qui devient adulte, plus pour adulte qui se remet en question et arrive à se recentraliser. C'est un film qui, étrangement, parle à certains moments de la déconstruction masculine et qui en fait quasiment un symbole de virilité. Par exemple, on a notre cowboy Palance qui est vraiment le cliché du cowboy, mais qui sait ce que lui veut, ce qu'il aime. Et au fur et à mesure, voir ces jeunes hommes en fait totalement débarrassés de la vie de tous les jours, avec pour seul objectif réussir à emmener les vaches jusqu'au bout du voyage, et notamment Norman, et ça va être très dur. Bah, on développe un discours justement sur ce qu'est un homme, ce qu'on aime, et éventuellement dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui est important à nos yeux. Non, c'est un film, c'est une comédie qui est très drôle et qui arrive à se montrer intelligente. Et ça, je peux vous dire que ça m'a surpris tout au long du film.
C'est drôle, c'est touchant. Alors, Billy Crystal, c'est, à l'époque, c'est une superstar. Il a fait deux flics à Chicago peu de temps avant. Il a fait Quand Harry rencontre Sally. Enfin, c'est vraiment une superstar. Il est très drôle, il est très touchant. Le film est aussi très réussi parce que lui est très bon. Hein, il apporte cette grande humanité. Le scénario est excellent aussi. Hein, les personnages sont particulièrement écrits. Tu as très bien dit cette scène de début. Elle dure 5 minutes et elle pose tous les enjeux du film. On devine quel est leur passé, quel est leur type de relation entre eux, avec leur compagne, quel type d'homme ils sont, tout de suite, en 5 minutes. Bon, déjà, ça, c'est super bien écrit. Hein. Et le film, parce qu'une comédie, normalement, c'est une question de rythme, dure 2 heures quand même. Et ça passe tout seul. Parce que c'est pas qu'une comédie, c'est aussi un film d'action, c'est un vrai western. Il y a toutes les scènes du western. Il y a la scène où il faut sauver le troupeau, il y a les confrontations avec la mort dans le film, qui reviennent à plusieurs reprises. Donc, parfois c'est hilarant même, à la fois touchant et hilarant, arriver à rendre drôle la mort comme ils arrivent à le faire dans le film, tout en étant touché, parce qu'on est vraiment touché. Non, c'est vraiment, moi je trouve... Ah puis, un moment, alors qu'il ne va pas du tout parler aux jeunes des générations d'aujourd'hui, un échange hilarant dans la façon dont on doit programmer un magnétoscope, qui est juste à tomber, n'en pouvais plus.
Il faut faire comme ça, mais non, ça ne marche pas. Mais si je n'allume pas la télé, je ne peux pas enregistrer.
Mais si tu peux enregistrer une autre chaîne que celle que tu regardes, mais ça dure des plombes ce truc, c'est trop drôle. Mais le film est super parce qu'il est touchant, en vérité, hein, c'est tout simplement ça. Moi, je trouve pas trop que c'est des vieux cons. Je trouve que c'est juste des mecs qui sont perdus, quoi. Un peu, c'est des quarantenaires, un peu, qui ont fait tout ce que la société leur a dit de faire. Ils sont devenus. Il y en a un qui a un modèle de famille, d'ailleurs très drôle, dont le fils est joué par Jacques Guilénol. Jacques Guilénol qui mesure 1m20. C'est trop drôle de le voir tout petit. Il a déjà la même tête. C'est trop marrant. Et puis, il y a une femme super et tout. Enfin, lui, il a vraiment la vie idéale. Juste lui, il s'emmerde dans son boulot. Il y a l'autre qui compense un truc qui fait que courir les petites jeunettes. Et puis, enfin, il y a l'autre qui a fait un mariage d'argent, en fait, tout simplement. Jusqu'au moment où, pendant la fête d'anniversaire de Billy Crystal, il y a la caissière de supermarché qui vient à la fête et puis qui lui dit « Non, mais attends, mon test, il est positif !»
Et pourquoi elle vient te dire à toi que son test est positif?
Enfin bon, bref. Et on découvre qu'il n'a plus de vie sexuelle depuis 20 ans, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, non, c'est vraiment un très bon film. Alors, je précise que cette édition-là de Bubble Pop, de La vie, l'amour, l'élevage de Ron Underwood, qu'on vous conseille donc vivement, 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 parce que c'est vraiment à revoir, c'est encore mieux qu'à l'époque, a tout plein de bonus. Dont un très beau portrait de Jack Palance, parce que c'est aussi un film amoureusement dédié à Jack Palance par le réalisateur, et aussi une ode à Norman. Mais ça, je vous laisse découvrir pourquoi on vous a autant parlé de Norman depuis le début de cette chronique. Et donc, évidemment, on vous encourage à vous précipiter sur cette belle édition de ce film culte qu'on avait un peu oublié de ce côté-ci de l'Atlantique.
Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin, elles broutent plein de l'herbe.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Johan Chanoir, dit Le Chat Errant. Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Me font les vaches font me.